connecté avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient dans un instant, vous le savez, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, vos questions que vous posez à la rédaction des RFI, à nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Vous souhaitez mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité, eh bien c'est simple, vous nous appelez et vous pouvez le faire tout au long de la journée. N'attendez pas le début de l'émission pour nous rejoindre, vous pouvez le faire toute la journée, l'équipe est là. Nous répondons évidemment au standard 33 9 693 693 70. Si vous êtes à Paris, vous composez le 09 693 693 70 et vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat et nous parlerons tout à l'heure de la stratégie de l'opposition au Niger. Je vous rappelle qu'elle avait appelé à boycotter le second tour de la présidentielle. Elle a ensuite contesté la victoire du président sortant Mamadou Issoufou et pour tenter d'apaiser les tensions politiques, eh bien le président s'était dit prêt à former un gouvernement d'union nationale. L'opposition a rejeté cette proposition. Du coup, aucun membre de l'opposition ne figure dans le nouveau gouvernement dévoilé lundi soir. Alors comprenez-vous la décision des opposants ? Fallait-il accepter la main tendue du président Issoufou ? Le bras de fer va-t-il se poursuivre ? Vos réactions également au standard. Vous êtes nombreux au standard à nous appeler, à souhaiter commenter. Je jette un coup d'œil pendant que je vous parle sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Là aussi, plusieurs réactions. J'en lirai quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, donc, les questions à la rédaction. Benny Aurel nous appelle de Bujumbura. Bonjour Benny Aurel.
Ah, bonjour Joa Gomez et bonjour à tout le monde qui nous écoute.
Alors,
le Conseil de la sécurité de l'ONU a voté le 2 avril une résolution pour faciliter le déploiement d'une police au Burundi. Elle prévoit la résolution finale. Pourquoi pas les troncs de la police par les casques bleus? Pourquoi l'opposition dénonce cette résolution ?
Ah, des policiers de l'ONU prochainement au Burundi, effectivement, pour tenter d'apaiser les violences. Benny Aurel, on rappelle tout de même que le Burundi est en proie à une crise politique depuis maintenant un an, depuis que le président Nkurunziza a décidé de briguer un troisième mandat. Bonjour Carole Valade.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique des RFI. Alors effectivement, il y a une dizaine de jours, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution concernant l'envoi d'une force de police au Burundi. Cette résolution a été adoptée sous l'impulsion de la France. Que prévoit exactement le texte ?
Le texte en fait est assez vague hein, parce qu'en fait il s'agit plus d'une décision de principe. La résolution demande au secrétaire général de l'ONU de présenter dans un délai de 15 jours une série d'options en vue d'un déploiement de forces de police au Burundi. Leur mission reste encore floue, hein, surveiller les conditions de sécurité et promouvoir les droits de l'homme selon le texte. Le côté burundais on parle plus d'experts ou d'observateurs non armés. Le texte ne précise pas non plus combien d'hommes seront déployés. La France voulait plutôt une centaine, mais Bujumbura ne veut pas plus de 30.
Ouais, en tout cas, comme le rappelait à l'instant notre auditeur Benny Aurel, il ne s'agira pas de casque bleu, contrairement à ce que demandait l'opposition burundaise.
Non, en effet, et ils ne seront pas déployés sans l'accord de Bujumbura. Le Conseil n'a pas évoqué le chapitre 7 de sa charte, hein, qui lui aurait permis d'intervenir par la force, notamment parce que les pays africains présents au Conseil, ou encore la Chine, s'opposent systématiquement à toute violation de la souveraineté nationale.
Alors, on sait que cette résolution a fait l'objet de tractations au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Sait-on sur quoi ont porté les négociations, les discussions ?
Pour le savoir, en fait, on peut comparer le brouillon à la résolution finale. Et là, on voit qu'une proposition disparaît, celle de soutenir les opérations de désarmement qui sont menées par le gouvernement. Il faut savoir que ces opérations, elles sont très critiquées, hein, notamment parce qu'elles donnent lieu à des arrestations massives de jeunes et parfois même à des exactions. Donc finalement, en fait, cette résolution, c'est le fruit d'un compromis entre plusieurs positions, notamment celle des États-Unis qui veulent une présence massive sur le terrain et celle de la France qui prend en compte les difficultés d'un consensus avec Bujumbura mais surtout au sein du Conseil.
Alors le Conseil de sécurité, en tout cas le bureau du secrétaire général de l'ONU doit présenter d'ici la fin de la semaine, d'ici à vendredi pour être précis, certaines propositions. Que va-t-il se passer ensuite ?
Déjà, en ce moment même, le conseiller spécial Jamal Ben Omar est en ce moment dans la région pour discuter des options possibles avec les différents acteurs. Il va rendre ses conclusions au secrétaire général qui les transmettra à la France. Et c'est la France, donc, qui sera chargée de soumettre le projet de résolution au Conseil pour entériner le déploiement.
Donc, pour l'instant, rien n'est encore fixé, rien n'est encore tranché. Et pourtant, Benny Aurel le disait à juste titre, cette résolution fait d'ores et déjà bondir l'opposition qui condamne unanimement le texte.
Tout à fait. Par rapport au projet de l'UA qui prévoyait d'envoyer, vous en rappelez, la Maprobu, hein, 5000 hommes, ou par rapport aux différents scénarios dont on avait parlé, qui étaient envisagés par Hervé Latsou, cette résolution, elle va plutôt dans le sens du gouvernement qui, lui, s'est toujours opposé à tout déploiement d'hommes en armes.
Et c'est exactement ce que lui reprochent les opposants.
Les opposants et même la société civile burundaise, hein, plusieurs organisations estiment en fait que cette présence risque d'apporter plus de légitimité au pouvoir en place. Et cette condamnation, elle va même jusqu'aux groupes rebelles, hein, qui ont pris les armes contre Pierre Nkurunziza. Le Red Tabara, par exemple, dans un communiqué, parle d'une décision, je cite, « cynique et décevante ». Ils disent « Nous n'avons pas besoin d'observateurs qui contemplent depuis les balcons des hôtels de Bujumbura les souffrances du peuple burundais » dans ce communiqué. Le mouvement appelle les Burundais à se défendre par eux-mêmes. Donc, en fait, en définitive, cette résolution, elle pourrait avoir l'effet inverse de celui escompté.
On suivra ça, évidemment, dans les prochains jours au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous êtes à Bujumbura, vous souhaitez, justement, témoigner de la situation et nous livrer vos réflexions sur l'attitude des Nations Unies face à la situation dans votre pays, eh bien, appelez-nous. On sera un plaisir de vous donner la parole vendredi dans la Libre Antenne, puisque le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. Merci beaucoup, Carole Valade. On remercie évidemment Benny Aurel, qui nous appelait de Bujumbura, la capitale burundaise. Il est 10h17 à Paris. Ce sont vos questions. On va s'intéresser au Venezuela maintenant. Jack Arija, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Juan Gomez. Bonjour à tous.
Vous êtes au Mali, à Bamako. On vous écoute.
Oui, oui. En fait, depuis la semaine dernière, le Venezuela a décrété tous les vendredis fériés pour économiser de l'énergie. Donc, j'aimerais savoir quelle est la situation énergétique du pays.
Alors, c'est une excellente question. C'est vrai que cette décision d'accorder à la fonction publique, à l'administration publique, tous les vendredis, journées fériées jusqu'au début du mois de juin, peut sembler complètement surréaliste quand on sait que le Venezuela est le pays qui détient les plus grandes réserves mondiales de pétrole. Eduardo Rios, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Merci, très bien. Vous êtes spécialiste du Venezuela, analyste à l'OPALC, qui est un observatoire politique spécialisé sur l'Amérique latine. Le Venezuela a du pétrole, mais a priori n'a pas assez d'électricité.
C'est la grande contradiction. L'énergie électrique que consomment les foyers est produite à 70% par de l'énergie hydroélectrique et elle est extrêmement dépendante de la pluie et justement des conditions météorologiques, non pas du pétrole. Ça, c'est exact. Mmh. C'est une grande contradiction.
Ouais, effectivement. Comment expliquer qu'il manque autant d'électricité dans ce pays? Quelles sont les failles? Où est le problème?
Je pense que il faut donner un peu de contexte et tout d'abord, il faut savoir que le problème n'est pas nouveau depuis les coupures de courant sont récurrentes depuis 2009. Cependant, la capitale avait été épargnée tant que faire se peut. Maintenant, comme c'est un problème politique, c'est un problème que les différents acteurs définiront de façon un peu différente. Donc, le chavisme dira que c'est un phénomène climatique, le phénomène El Niño qui provoque des sécheresses fortes et du coup qui réduit le niveau des hydroélectriques, mais aussi un problème d'augmentation de demande de l'électricité par les programmes sociaux.
Ouais, c'est-à-dire que, oui, effectivement, la sécheresse pénalise le pays et peut expliquer les problèmes énergétiques. Et en même temps, on peut dire, effectivement, que les programmes sociaux ont permis à la population la plus démunie d'avoir accès à des biens de consommation qui consomment énormément d'électricité. On pense aux climatiseurs, on pense aux machines à laver, etc. etc. C'est ce qui explique la situation actuelle. Est-ce que la solution proposée par le président Maduro d'accorder tous les vendredis fériés pour économiser de l'énergie, est-ce que c'est une bonne solution selon vous?
Et c'est là où la réponse de l'opposition, je pense, a un facteur important. Elle dira que le problème énergétique est produit par un sous-investissement et un problème de management de la gestion énergétique au Venezuela. C'est-à-dire, c'est une solution qui ne fait que mettre en évidence l'ampleur de la crise de production de l'énergie, notamment reposant sur des crises de corruption répétées dans le secteur énergétique sur les derniers 10 ans.
D'accord. Jack Arija, est-ce qu'on a répondu à votre question? Est-ce que vous comprenez mieux la situation énergétique du Venezuela?
Oui, j'ai tout à fait compris, M. Juan Gomez, et je vous remercie beaucoup.
Oui. Un petit mot, Eduardo Rios, comment réagit la population à ces problèmes d'électricité qui sont quand même récurrents, même si, faut le préciser, Caracas, la capitale, est relativement épargnée, hein.
Elle a été épargnée et tout semble indiquer qu'elle ne le sera plus dans quelques jours. Ah. La population est aux prises de pénurie de produits de base massifs, est aux prises d'une inflation très très importante et d'une chute et d'une dévaluation incroyable, c'est-à-dire d'une situation économique terrible. Ces problèmes d'énergie ne fait que s'ajouter à une manière de vivre au Venezuela qui est extrêmement difficile et précaire et elle ne produira de toute évidence pas une étincelle d'une révolution ni une étincelle sociale. Cependant, c'est un coup de plus qui, en effet, attaque la popularité de Nicolas Maduro, déjà mal en pointe dans les sondages.
Oui, Maduro, ça, de plus en plus impopulaire, effectivement. Merci, Eduardo Rios, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Venezuela. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct de Londres. Antoine Grenier, du service des sports, nous rejoint. Bonjour, Antoine.
Bonjour, Juan.
On va parler football, mais on va pas parler du PSG.
Ah mince.
Bah non, on n'a pas de question sur le PSG ce matin. En revanche, on a une question sur le championnat d'Angleterre. Sonny, bonjour.
Bonjour. Ah,
bienvenue sur notre antenne. Vous avez des questions donc concernant le championnat d'Angleterre?
Oui, bonjour RFI. Leicester City est l'acteur leader du championnat anglais venu de la deuxième division, en train de s'imposer devant des grands clubs comme Manchester City, Arsenal, United, etc. Alors que ce club n'a pas de grands joueurs comme Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Suarez, etc. Je veux savoir qu'est-ce qui explique vraiment ce succès de cette équipe.
Ouais, Leicester, effectivement, personne en début de saison n'aurait parié un centime. Et pourtant, le club est aujourd'hui en tête du championnat d'Angleterre. Hein, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Il est même déjà qualifié pour la Ligue des Champions de l'année dernière. Racontez-nous l'histoire incroyable de ce petit club, finalement, qui évolue dans le plus grand championnat du monde.
L'histoire incroyable, c'est l'histoire d'un groupe. C'est la preuve que dans le football, avoir de très bons joueurs, ça sert à rien si jamais on n'arrive pas à en faire une équipe. Leicester, cette année, profite de la forme olympique, la forme de leur vie, de deux attaquants. Riyad Mahrez, l'Algérien, qui il y a deux ans jouait au Havre, en deuxième division française, et que les Anglais de Leicester sont venus chercher. Et cette année, il a inscrit 16 buts, délivré 11 passes décisives, notamment à l'autre attaquant très très en forme, l'Anglais Jamie Vardy, qui a 29 ans, qui a marqué 21 buts. En 2012, lui, il jouait en 5e division anglaise. Il travaillait dans une usine pour vivre et à côté, il jouait au football. Et là aussi, Leicester est venu le chercher en 2012. Il a rejoint le club et il est devenu champion avec l'équipe. Ils sont montés en première ligue. Ce sont des joueurs qui ont connu des temps difficiles dans leur carrière ou avec Leicester pour Jamie Vardy. Et du coup, cette année, quand ça rigole, ça rigole jusqu'au bout. En plus, Leicester a profité de conditions plutôt favorables, en particulier au niveau des recrutements. L'achat de N'Golo Kanté, le franco-malien, le milieu de terrain de Caen, notamment. Il a été acheté pour 8 millions d'euros au club normand en Ligue 1 française et il donne totalement satisfaction.
Et le club peut remercier le sélectionneur, l'italien Claudio Ranieri, qui lui est expérimenté.
Alors lui, il s'est surtout énormément investi quand il est arrivé à Leicester. Le club anglais est allé le chercher après deux expériences assez mitigées. Il avait été licencié de Monaco alors qu'il avait fini deuxième du championnat de France. Il s'était raté en Grèce. Ranieri s'est investi jusqu'au bout. Il a pleuré là, lors du dernier match après la victoire de son équipe contre Sunderland. Il est très attaché à ce club. Surtout, il a construit un groupe. Il a joué sur le passé et sur l'affectif avec ses joueurs. Il y a notamment cette histoire qui est fabuleuse où Leicester, en début de saison, gagnait, jouait bien, mais prenait trop de buts. Et Ranieri, en bon italien qu'il est, il n'aime pas ça, prendre des buts. Donc, il a dit à ses joueurs, si vous arrivez à faire un match sans prendre de but, je vous emmène manger une pizza tous ensemble. Seulement, ce qu'ils leur avaient pas dit, c'est ils sont allés à la pizzeria, mais c'est eux-mêmes, les joueurs, qui ont fait leur propre pizza. Ah. Du team building, d'une construction d'un groupe, Ranieri a été vraiment jusqu'au bout avec Leicester et c'est ce qui fait que l'équipe est actuellement en tête de Premier League cette saison.
Et c'est l'une des grosses surprises de l'histoire du football anglais. Leicester, en quelques mots, a profité de l'effondrement des grands clubs.
Bah oui, parce que Manchester United va mieux, mais son début de saison a été catastrophique. Chelsea également. Liverpool a été trop inconstant. Arsenal a montré des limites assez inquiétantes dans ses matchs à enjeu. Donc c'est une équipe qui a été trop tendre pour être championne. City, Manchester City, qui s'est qualifié hier contre le Paris Saint-Germain pour les demi-finales de la Ligue des Champions, a montré qu'elle était très concentrée sur les compétitions européennes. Donc finalement, le principal rival de Leicester cette saison, ça a été Tottenham. Tottenham qui est déjà relégué à 7 points de Leicester à 5 journées de la fin. C'est bien parti. Le principal danger maintenant pour Leicester, ça va être de gérer un calendrier qui n'est pas forcément favorable. Il y a deux gros déplacements, un à Manchester contre Manchester United et un autre à Stamford Bridge contre Chelsea. Ce sont deux équipes qui vont mieux qu'en début de saison, donc il faudra prendre des points contre eux.
Ouais, en tout cas, on se fait déjà un plaisir de les voir en Ligue des Champions l'année prochaine. Merci beaucoup Antoine Grenier. Sofiane, bonne journée à vous. Vous nous appeliez de Niamey au Niger. On termine avec Sonny qui nous appelle de la province du Kasaï en République démocratique du Congo. Bonjour Sonny.
Bonjour Récy, bonjour Juan, bonjour tous les auditeurs de la chaîne mondiale.
Merci à vous. Vous avez des questions sur l'Islande après les révélations des Panama Papers?
Ok, parfaitement. Le Premier ministre, cette révélation des Panama Papers, le Premier ministre islandais vient de démissionner et le parti pirate est en tête de tous les sondages. Voici ma préoccupation. Qu'est-ce que c'est le parti pirate?
Ouais.
Qui est à sa tête et qu'est-ce qu'il propose?
Et qu'est-ce qu'il propose?
Merci.
Ouais. Le parti pirate, c'est vrai que le nom de ce parti peut surprendre, mais quand on regarde les instituts de sondage, eh bien aujourd'hui, 43% des Islandais se disent prêts à voter pour ce parti fondé il y a moins de 4 ans. Michel Salé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, auteur d'une thèse notamment sur l'Islande contemporaine, et vous avez publié un ouvrage sur l'Islande, publié aux éditions Kartala. Expliquez-nous l'engouement des Islandais pour ce parti qui prône notamment la transparence de la vie publique.
Je crois justement que c'est le souhait des Islandais que d'avoir une vie publique beaucoup plus transparente. Alors, ceci étant, l'engouement, si on peut dire, pour les partis pirates est né avant l'affaire des Panama Papers. Hein. Alors, il faut savoir que le parti pirate, en fait, est la filiale islandaise, si je puis dire, d'un mouvement international qui est né en Suède il y a déjà une dizaine d'années. Il y a même un parti pirate en France, mais il y a un parti pirate en France. Le thème de ce parti pirate, donc en fait il s'agit de pirater l'information, le thème de ce parti pirate c'est justement clarté de l'information et démocratie directe ou aussi directe que possible. Voilà le thème général du parti pirate.
Une démocratie
en
donc
Islande,
participative, lutte contre la corruption, l'indépendance vis-à-vis des milieux d'affaires. Mais contrairement à la France où ce parti effectivement n'est pas populaire, en Islande, de plus en plus d'électeurs se retrouvent dans les idées de ce parti.
Oui, alors, de plus en plus, c'est vrai. C'est-à-dire, en fait, ce parti a eu 3 députés aux élections législatives de 2013. Contre toute attente, d'ailleurs. Il a juste dépassé d'un dixième de point la barre, les 5% nécessaires pour avoir des députés. Et après, il est resté, enfin, il a monté progressivement jusqu'à 10%. Et il est resté stable autour de 10% grâce au très très bon travail de ses dirigeants. Je reviendrai sur le mot dirigeant tout à l'heure parce que c'est contesté chez les pirates, les dirigeants. Et puis, donc, là est arrivé avant même les Panama Papers, excusez-moi, une décision du gouvernement de ne pas faire de référendum sur la poursuite des négociations avec l'Union européenne. Et là, ça a fait comme une espèce d'appel d'air, puisque finalement, le gouvernement a dit, c'est pas à vous de décider sur ce sujet-là. Mmh. Et de ce fait-là, le parti pirate est d'un mois à l'autre passé à 30% d'intention de vote.
Et aujourd'hui, à 43% après la démission du Premier ministre, accusé d'avoir un compte offshore pour cacher des millions d'euros. On va suivre évidemment dans les prochaines semaines la vie politique dans ce pays, puisque l'opposition réclame des élections anticipées et il est fort probable que le prochain Premier ministre soit issu justement de ce parti, le parti pirate islandais. Michel Salé, on est obligé de rendre l'antenne. Merci d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir expliqué ce phénomène islandais. Dans un instant, le journal et on revient dans 10 minutes pour notre débat du jour. On parlera du Niger et du bras de fer entre l'opposition et le pouvoir. À tout de suite.
Priorité santé. Claire.